Cela se passait dans un temps où les sorciers et les magiciens faisaient la loi sur la terre. Nul ne pouvait rien sans leur aide. Par contre, eux pouvaient tout. Et les hommes, qui faisaient parfois appel à leur service, avaient pour eux le plus profond respect, tout en les craignant plus que la foudre ou les maladies les plus terribles. C'est que les sorciers, comme les magiciens, pouvaient aussi faire le mal si on avait le malheur de leur déplaire. Et le soir, lorsque la nuit était tombée, les gens s'enfermaient à double tour dans les demeures pour ne pas risquer de les rencontrer. C'était surtout les forêts qu'à l'approche du soir, on évitait de traverser. Chacun savait qu'ils avaient l'habitude de s'y réunir. Quelquefois, la nuit, on entendait un appel de chouette les invitant à s'assembler. Et on les imaginait accroupis en compagnie des esprits du ciel et de la terre autour d'une marmite où bouillait le venin. On les imaginait lançant leurs maléfices sous la clarté des étoiles. Et parfois, ceux qui tendaient l'oreille avaient l'impression d'entendre dans le vent les cris désespérés des âmes qu'ils damnaient. Alors, le cœur glacé d'effroi, les hommes, les femmes et les enfants se blottissaient au fond des lits en fermant les yeux pour être bien sûrs de ne pas apercevoir les démons si par hasard ils se manifestaient. Il y avait en ce temps-là un sorcier qui n'était pas un méchant sorcier. Il lui arrivait bien quelquefois de transformer en chèvre une casserole au moment où on la mettait sur le feu, mais ce n'était que pour s'amuser de la tête que faisaient les gens. Jamais il n'avait usé de sa science pour faire du mal à qui que ce soit. La caverne où il habitait était cependant bien sombre et bien mystérieuse, comme celle de tous les sorciers. Il fallait s'enfoncer dans les entrailles de la terre pour y accéder. Et les dernières marches franchies, on se trouvait emprisonné dans une ambiance étrange où ne résonnait que le bruit des gouttes qui tombaient une à une des alambics et des cornues. Le magicien se mouvait comme une ombre au milieu des grimoires jaunis, grignotés par les rats. Il restait quelquefois des heures entières penché sur un récipient sans accomplir un geste. La chouette, qui ne le quittait jamais, l'observait de son regard vide. Et les objets qui encombraient la pièce ajoutaient encore à l'impression de se trouver dans un autre univers. Le sorcier, qui était un grand savant, rêvait de pouvoir transmettre sa science à quelqu'un lorsqu'il quitterait la terre. Et comme il n'avait pas d'enfant, il avait pris avec lui un jeune garçon dont il avait fait son aide et auquel il espérait enseigner son savoir. Le jeune garçon, pour l'instant, n'était qu'un apprenti, et l'aide qu'il apportait au sorcier consistait essentiellement à faire ses courses et à nettoyer la caverne qui leur servait de demeure. Or, ce jour-là, justement, le sorcier qui devait se rendre au village voisin ordonna à l'apprenti de mettre à profit son absence pour faire le ménage, et partit, non sans lui avoir recommandé de ne rien toucher à ce qu'il laissait. « L'enfant était fou de joie de se savoir le maître de la demeure, de régner pour un instant sur cet univers mystérieux. Il rêvait qu'il était le sorcier, qu'il avait le pouvoir de gouverner le monde et de soumettre les esprits à sa volonté. Comment pouvait-il, dans ces conditions, se décider à se mettre à l'ouvrage? Les seaux étaient lourds à porter lorsqu'ils étaient pleins d'eau, et il préférait rêver. À moins qu'il charge le balai d'aller chercher l'eau. Il l'avait vu faire plus de 10 fois par son maître.
Et je connais la formule par cœur. Ce serait bien bête de me fatiguer alors que j'ai le pouvoir de me décharger de ce travail. Commençons par ordonner au balai d'aller chercher de l'eau.
Sans réfléchir davantage, l'apprenti se tourna vers le balai et tout en prononçant la formule magique, accomplit les gestes qu'il avait vu faire au sorcier.
Balai, balai, je te l'ordonne, va puiser de l'eau et remplis le baquet.
Une étrange brume avait envahi la caverne. L'air autour de lui s'était mis à vibrer. L'apprenti, anxieux, avait cessé de respirer, et dans son coin, le balai commençait à s'animer. Deux bras apparaissaient des deux côtés du manche. Il s'allongeait, et lentement, le balai se mettait à marcher. Il avait pris 2 sauts qui se trouvaient à ses pieds, et en se balançant à droite, à gauche, s'était dirigé vers le puits, d'où il revenait pour verser l'eau dans le baquet. L'apprenti avait réussi. Mais déjà, le balai revenait et versait 2 autres sous dans le baquet. Le baquet était plein. Il fallait arrêter le balai. Seulement cette fois, l'apprenti était pris de panique. Il avait oublié la formule et le balai continuait à verser l'eau qui maintenant se répandait sur le sol. L'apprenti s'était emparé du gros livre où tout était écrit. Il en feuilletait fébrilement les pages. Mais il ne trouvait rien. Et le balai poursuivait sa marche, versant à chaque voyage 2 sauts dans la pièce inondée.
Balai, je te l'ordonne. Arrête-toi, je te l'ordonne.
Mais le balai continuait, indifférent à ce qui se passait. L'eau se faufilait sous les meubles, envahissait la demeure.
Il faut que je l'arrête! Il faut que je l'arrête!
Et l'apprenti, qui ne savait plus que faire, se précipita sur le balai pour tenter de le retenir. Que pouvait un pauvre petit apprenti contre un balai ensorcelé? Il s'était retrouvé par terre et le balai était reparti.
Balai, je t'en supplie, tu vas me faire gronder!
Il était certain que le balai s'en moquait. Et l'eau montait dans la caverne, montait sans cesse. Les papiers du magicien flottaient un peu partout. Les marmites et les chaudrons voguaient à la dérive. Et le balai continuait à aller et à venir. Le pauvre apprenti était attiré.
Il faut que je l'arrête.
Et il courait dans tous les sens, se demandant que faire. Il se heurtait aux chaises, aux meubles, aux alambics. Il s'accrochait au balai chaque fois qu'il le pouvait, essayant toujours en vain de lui barrer le passage. C'était un combat sans merci qu'il livrait au palais ensorcelé. Voyant qu'il n'arriverait jamais à arrêter le balai, l'apprenti l'avait saisi des deux mains et d'un grand coup sur le genou, l'avait crassé en deux. Tout était sans dessus-dessous à l'intérieur de la caverne, envahie par l'eau, et en jetant un regard autour de lui, l'enfant fut presque aussi atterré que lorsqu'il n'arrivait pas à arrêter le balai. Il n'y avait plus rien de sec dans la caverne. Les livres, les parchemins flottaient un peu partout. Les marmites transformées en navires allaient à la dérive. Les alambics et les cornues s'étaient renversés dans l'eau. La chouette, que pour une fois le sorcier n'avait pas emmenée avec lui, s'était réfugiée sur le haut d'une armoire, et les rats, qui habitaient les recoins de la caverne, chassés par l'eau de leurs abris, avaient grimpé sur les dossiers des chaises renversées.
Si seulement j'arrivais à enlever l'eau!
Et l'enfant, bien décidé cette fois à ne pas ménager sa peine, se saisit d'un seau qui flottait à ses pieds et entreprit de se mettre à l'ouvrage. Ce fut à ce moment-là que, se tournant vers les débris du balai, il resta figé de stupéfaction.
C'est pas possible!
Briser le balai n'avait pas arrêté le sortilège. Les deux morceaux s'animaient lentement et sous les yeux horrifiés de l'apprenti sorcier, chacun d'eux devenait un balai. Chacun avait sa paille, chacun avait ses bras.
Non, non, n'y allez pas, vous êtes fous, n'y allez pas!
Les deux balais se redressaient. S'emparer des seaux qui, eux aussi, s'étaient dédoublés. C'était quatre seaux qui, maintenant, allaient déverser de l'eau dans la pièce.
Je vous en prie, je vous en prie!
Mais les balais s'étaient mis en marche.
N'y allez pas, n'y allez pas!
L'apprenti, désespéré, courait à droite, à gauche, essayait de retenir un balai. Puis le lâchait pour essayer de rattraper l'autre.
Je vous en prie, je vous en prie!
Les balais triomphants revenaient et repartaient sans se soucier des efforts de l'apprenti sorcier. Et l'on montait, montait! L'apprenti, qui avait perdu la tête, brisait en deux, en trois, en quatre les balais qu'il pouvait saisir au passage. Et c'était deux, c'était trois, c'était quatre balais que devenaient les morceaux. Il était submergé. Les balais se multipliaient sans cesse. Et l'enfant se rendait compte qu'il allait être noyé. Enfin, devant la peur, L'apprenti s'était résolu à reconnaître son impuissance et appeler son maître au secours. Le magicien était apparu à l'entrée de la caverne, et aussitôt, l'enchantement avait cessé. L'eau avait disparu. Il n'en restait plus la moindre trace, ni sur le sol, ni sur les murs. Les parchemins épars s'étaient regroupés comme par miracle. Les marmites et les chaudrons avaient retrouvé leur place. Le feu de la cheminée lui-même semblait ne jamais avoir été éteint. Les cornues, les alambics, continuaient à distiller goutte à goutte les liquides qu'ils contenaient avant que le balai se mette en marche. Les chaises n'étaient plus renversées. Les rats, qui s'étaient réfugiés en dernier lieu, avec la chouette sur le haut des armoires, avaient regagné leur trou. Et le balai, qui était redevenu un vieux balai de cuisine aux longues pailles usées par des années de travail, s'était sagement rangé dans un coin en compagnie des seaux et de la serpillière. Quelques soubresauts l'animaient encore, mais c'était terminé. La caverne avait retrouvé son ambiance habituelle, comme si rien ne s'était passé. Le sorcier avait éclaté de rire en voyant son apprenti tout penaud au milieu de la pièce. Lui seul était encore mouillé et confus. Il se faisait tout petit, regrettant sans doute de n'avoir pu se réfugier dans un trou avec les rats et les souris. « Voilà ce que c'est de vouloir jouer les sorciers, de libérer des forces que l'on ne connaît pas, sans être sûr de pouvoir les arrêter. » J'espère que cela te servira de leçon. » L'apprenti jura qu'il ne recommencerait plus, et en effet, il ne recommença plus jamais. Comme il souhaitait tout de même commander un jour aux forces et aux esprits, il fut le modèle des apprentis. Il apprit la chimie, la physique, les mathématiques, sans que son maître eût besoin de le punir ou même de l'en prier. Et un jour, lui aussi devint un grand sorcier. C'était il y a longtemps, très longtemps, à l'époque où les sorciers et les magiciens faisaient la loi sur la terre, à l'époque où, dans le vent, les gens croyaient entendre, lorsque la nuit était venue, les cris désespérés des âmes perdues. C'était il y a longtemps, très longtemps, et les temps ont changé. Il n'y a plus de sorciers, et le vent que le soir on entend souffler n'est plus que du vent, sans cri de damné. Pourtant, il est encore très dangereux de libérer les forces dont on ne connaît pas la puissance, de provoquer des événements que l'on n'est pas sûr de pouvoir dominer ou de soumettre à sa volonté. Et, avant d'appuyer sur un bouton, de frotter une allumette ou de déclencher la moindre action, il est prudent de penser à l'histoire de l'apprenti sorcier.